Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Rickside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions phares de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour un super catch-up. On va faire la doublette Monday Night Raw et SmackDown. Le Monday Night Raw du 11 juillet 2022 et le SmackDown du 15 juillet 2022. Soyons fous, on va rattraper le retard. C'est l'été, double ration pour tout le monde. On est toujours sur la route de SummerSlam. Donc on va s'attendre à ce qu'il se passe des choses, hein, parce que ça arrive quand même assez rapidement, SummerSlam. On va vérifier tout ça pour m'accompagner. Des acolytes de choc et de charme. Ce bon vieux papy, comment ça va, papy?
Bonjour Inside, mais ça va, c'est super SmackDown, c'est super.
C'est trop super et c'est aussi super d'avoir avec nous Letty. Comment ça va, Letty?
Salut Ringside, salut papy, salut à tous. Ben, ça va très bien et très contente de vous retrouver.
Et ouais, on est toujours heureux de partir en triple frite pour raconter un petit peu les belles aventures de la WWE. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur la route pour SummerSlam. Et donc, à SummerSlam, qui dit SummerSlam dit gros match, hein, quand même. Gros match de championnat. Brock Lesnar affrontera Roman Reigns, le champion. Dans The Last Man Standing Match. Et c'est de bien ça dont il va être question pour l'opener d'Euro qui démarre avec une petite vidéo de Roman Reigns quand il était à SmackDown la semaine dernière qui disait qu'il était bien content, que la vie s'allait bien, que c'était lui, hein, le patron de la WWE en quelque sorte, que le business commençait quand il arrivait dans le ring et que la vie était belle. Voilà, alors on se demande bien pourquoi on nous passe ce message. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs comme ouverture de show. Mais ensuite, c'est l'arrivée de Brock Lesnar. Il avait été annoncé pour aujourd'hui, il débarque avec sa musique, il arrive au ring, il a son joli chapeau, mais il dit qu'avec le bel accueil que lui a offert le Texas, hein, parce qu'on est à San Antonio au Texas pour Monday Night Raw, il ne peut pas se permettre de garder son chapeau, hein, faut qu'il sorte les belles manières. Mais bon, pas trop longtemps, parce que derrière, il va enchaîner et insulter Roman Reigns, hein, il dit hein, Roman Reigns, il a la belle vie et tout ça, il s'engraisse comme un cochon, c'est un gros porc ce Roman Reigns, et moi je tue des porcs dans ma ferme toutes les semaines, dit-il face caméra. Vous imaginez quand même Brock Lesnar, tous les matins il se lève, il va tuer un cochon.
Ça fait froid dans le dos un peu quand même.
Ouais, dans l'image. Puis bon, c'est du boulot quand même de tuer un cochon tous les matins. Il doit avoir mieux à faire quand même, ce bon vieux.
Il y a beaucoup de cochons à Brock Lesnar s'il en tue tous les matins.
C'est pire que la ferme des mille vaches. La ferme des mille cochons de Brock Lesnar. On parle de cochons. Voilà ce bon vieux Paul Heyman qui débarque. Et qui menace hein, Brock Lesnar tout simplement. Il lui explique que Roman Reigns... il va s'occuper de son cas à SummerSlam. Cette fois-ci, c'est pas la bête incarnée qui va conquérir son adversaire, mais bien Roman Reigns qui va lui botter le cul. Je crois qu'il lui dit même que Roman Reigns va lui enfoncer son chapeau dans le fondement. Quelque chose comme ça. Ça commence à partir assez loin. Mais heureusement, Theory débarque. L'homme à la mallette, l'homme de Money in the Bank. Qu'est-ce qu'il vient faire là? On se demande qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, évidemment, il vient menacer Brock Lesnar. Il raconte que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va cash in, que ce soit sur Roman Reigns ou sur Lesnar, c'est pas grave. Il sortira victorieux, son pied sur la poitrine de son adversaire. Et il deviendra le plus jeune champion undisputed de la WWE. Champion de l'univers de la WWE, le plus jeune de l'histoire, hein, ce qui devrait battre le record de Brock Lesnar. Hein, je crois que c'est lui qui détenait le titre avant. Ça joue entre lui et Randy
Orton. Orton, non
ouais, je crois que c'est Orton. Hein,
mais c'est Orton n'a pas repiqué juste après ouais. Le truc à Lesnar.
Ouais, il me semble que c'est ça quand même. Mais bon, ça joue un petit peu sur cette corde sensible. Et surtout, Theory raconte qu'il a quand même un compte à régler avec Lesnar. Il dit que Lesnar, c'est pas un mec sympa. Parce qu'il joue le sympa, hein, Lesnar, depuis qu'il est arrivé, il salue la foule, il fait des grands sourires, il est content. Theory nous ressort une vidéo de l'Elimination Chamber de l'année dernière, qui se passait en Arabie Saoudite, je crois, où il se fait défoncer par Brock Lesnar au-dessus du pod, et il se prend même un F5 du haut de la cellule. Et bah voilà, hein, il raconte qu'il n'a pas oublié Théorie. Et là-dessus, il envoie ses hommes de main de l'occasion, hein, l'Alpha Academy, Otis et Gable, qui sortent de la foule et qui viennent attaquer les Snarls, mais ils se font botter le cul assez rapidement. Gable se prend je crois qu'il se prend un F5, mais c'est surtout Otis qui se prend un gros F5 sur la table des commentateurs. Un F5 qui ressemble plus à un Attitude Agents, parce qu'il fait, il passe pied par-dessus tête, Otis, et il s'écrase sur la table des commentateurs, et on termine avec un Brock Lesnar triomphant. Voilà l'opener de ce monde des Nitro qui nous rappelle qu'il y a effectivement ce gros match pour SummerSlam, et toujours Théorie en embuscade, et puis un bon passage à tabac pour l'Alpha Academy. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, Honor aux dames, Letty, qu'est-ce que t'as pensé de cet opener?
C'était un bon opener. Après, on avait tellement l'habitude que Brock Lesnar galère au micro, j'ai trouvé qu'il s'en sortait un peu mieux que d'habitude. Bon, après, je pense que le fait que Paul Heyman soit là pour échanger avec lui, ça l'a peut-être aidé, mais c'était voilà, il s'est bien montré conquérant, on va dire, ouais. Comme avant. Et puis, Otis qui vole comme s'il pesait 50 kilos. Enfin, voilà, il s'est montré plus qu'impressionnant et prêt pour son match. À mon avis, il y a du souci à se faire du côté de notre ami Reigns.
Le beau Roman, ouais, qui a peu de chance de. Enfin, qui a peu de chance. Ouais, il gagne toujours, enfin, Roman Reigns, mais quand même, il va avoir un adversaire de poids là.
C'est ça.
Effectivement, il a l'air au top de sa forme. C'est gentil Brock Lesnar. Il Billy Brock Lesnar un petit peu qui est arrivé en ville là, qui sourit. Ouais, c'était un petit peu au théâtre ce soir quand même, non? Son enchaînement avec Paul Heyman. Je sais pas comment tu le vois. Ou Letty, dis-nous. Mais c'est plutôt non, ça c'est fonctionne pas. Quand même ce type d'opener.
Ouais, c'est c'était assez bordélique en fait finalement, parce que au fur et à mesure ça se remplissait de superstars, et puis à la fin ça n'a même plus de logique parce que vient de foutre Otis et Gable dans l'affaire là, c'est des hommes de main de Théorie depuis quand? Bon, ils avaient besoin de remplir un peu la scène, et effectivement les Snarls étaient quand ils parlent de trucs de bestioles à égorger, on sent qu'il est tout de suite plus à l'aise que quand ils parlent de catch. Puis sinon ouais, c'était c'est ce qu'ils vont nous faire jusqu'à, heureusement c'est Warslam, c'est en deux semaines, hein, mais vu que de toute façon Lesnar ne catch pas, Reigns ne catch pas, ils sont là une semaine sur trois, bah du coup c'est le genre de segment auquel on commence à t'habituer, c'est à dire un gros package vidéo, puis après un petit segment de je te taunte en balançant des saloperies à l'autre qui est pas là. Et puis voilà quoi. Et rendez-vous dans X semaines pour avoir la réponse de Reigns quoi. Donc c'est pas super passionnant.
Ouais, c'est pas super passionnant. Maintenant, effectivement, c'est quand même plutôt bien exécuté. Comme disait Letty, on a un Lesnar qui s'en sort plutôt bien au micro, même s'il a une voix quand même qui correspond pas toujours à son physique, mais. Mais bon, après il fait le coup de poing en explosant les deux autres, donc ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on est sur le truc, étant donné que Roman Reigns est pas là et que Brock Lesnar il vient une fois toutes les semaines, comme tu dis, c'est un peu Paul Heyman qui doit faire le boulot de structurer ça, et on rajoute Théorie par dessus, et puis on essaye que ça colle quoi. Maintenant, on sait très bien que Théorie il cachera pas SummerSlam si ça se trouve, donc peut-être que tout ça c'est pour rien, mais bon. C'est un opener qui tenait la route quand même, c'est pas le pire segment qu'on aura eu de la semaine.
Non.
Malheureusement. Alors ensuite on a un match entre Finn Bálor qui est accompagné de Damien Priest, c'est le Judgment Day, hein, souvenez-vous. Et ils affrontent Rey Mysterio, plutôt. Et y a un petit échange au micro avant le match. Où Finn Bálor invite tout simplement Dominique Mysterio à rejoindre le Judgment Day. Hein, et il dit là, tu vas nulle part avec ton père il sert à rien. Il est washed up, comme on dit, il est essoré, il est fini. Si tu restes avec lui, ta carrière, elle est tuée dans l'œuf. Donc voilà, vient du côté du Judgment Day. Hein. On sait qu'ils ont déjà eu un match la semaine dernière que le Judgment Day a perdu, mais ils ont attaqué les Mysterio dans les vestiaires. Donc ça continue aujourd'hui. La tentation, le tentateur Finn Balor, accompagné de Damian Priest sur Dominik. Après, il y a un match entre donc Finn Balor et Rey Mysterio qui est gagné par Finn Balor. Il y a quelques petites interventions, etc. etc. Mais c'est quand même Balor qui gagne le truc. Alors où on en est rendu avec ce Judgment Day, mon bon papy, là, on était au sommet de la WWE et maintenant on affronte les Mysterio.
Ah ben non, mais c'est le Judgment Day, ça fait quand même un paquet de temps qu'ils sont enfoncés dans le card là. Et puis ils y restent avec les Mysterio. Je n'ai aucun intérêt pour cette histoire, tout comme je n'ai aucun intérêt pour le Judgment Day, tout comme je n'ai aucun intérêt pour les Mysterio. C'est de la low card et c'est même pas forcément spectaculaire à regarder, donc pour moi c'est on s'en fout de ces segments à répétition avec ces tocards.
Jugement sans appel. Letty, toi, ça trouve un peu plus grâce à tes yeux?
Pas vraiment, non, je suis d'accord avec Papy. C'est voilà, le Judgment Day, j'avais énormément d'a priori positifs pour eux jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, voilà, ils sont même plus en mid-card, ils sont carrément en low-card. Et à mon avis, vu comme c'est parti, ça ne s'annonce pas très très bien pour la suite. Et puis bon, bah, les Mysterio, c'est pareil. Hein, ça fait quelques semaines, quelques mois même, qu'ils sont enfoncés au fin fond de la carte. Et non, je ne suis pas passionnée non plus, pas du tout.
Bravo. Finn Balor en pantalon de cuir, non, rien du tout, quoi.
Ouais, non.
Mais non. Dominik qui intégrerait le Judgment Day, non, tout ça,
ça sera un rebond. Si Dominik pouvait se séparer de son père, ça serait un minimum intéressant, effectivement. Mm. Mais là, tant qu'il est avec sa coupe dégueulasse à le suivre partout, là, c'est assez difficile à supporter. À noter pour Finn Balor, comme je pense à toi, Rickside, quand je le vois, le mec, il a pris. Il a viré Edge et du coup tu t'es dit, on s'était dit tiens peut-être que Finn Balor peut-être qu'il va nous faire un truc chef de clan et tout, mais même pas quand il y avait Rhea Ripley, c'était Rhea Ripley qui parlait, maintenant qu'il y a Rhea Ripley plus là, du coup c'est Damian Priest qui est devenu une espèce de leader du clan, et en fait Finn Balor c'est vraiment le dernier des derniers du clan. Alors je sais bien qu'ils sont tous égalitaires, mais ça reste comme celui qui parle le moins, donc Finn pour l'instant il sort vraiment pas son épingle du jeu là-dedans, hein.
Bah ouais. Et puis, ben oui, bah c'est pas en débauchant Dominik Mysterio qu'ils arriveront à grand chose. S'ils arrivent au final à lui mettre un masque sur la gueule, moi je dis ce sera bien. Mais sinon, ouais, comme vous dites, c'est vraiment pas passionnant. On est un peu tombé en bas de tableau pour Damian Priest, qui est quand même un espoir prometteur. Et Finn Balor, Finn Balor, je pense que je peux faire mon deuil maintenant quand même de sa carrière, même si le match n'était pas dégueulasse et il commence à sortir des prises un petit peu plus originales qui sortaient jusqu'ici. Il est un peu moins bridé en mode méchant, mais.
C'est pas dégueulasse, c'est juste que c'est pas intéressant.
En fait, c'est juste que c'est voilà, c'est un peu le fil rouge de l'émission. Donc, on verra la semaine prochaine la suite de l'histoire. Sachant que on espère quand même peut-être un turn de Dominik, histoire de pimenter un peu tout ça.
Mais ça va de ton père.
Voilà, coup d'épée dans l'eau pour l'instant pour le Judgment Day. Allez, j'ai mieux pour vous. Hein, la championnat de catch féminin pour la championne de Monday Night Raw. Bianca Belair donne son match revanche à Carmella, mais d'abord il y a Becky Lynch qui débarque au ring, qui monte sur la table, qui nous raconte qu'elle était un peu triste, un peu désemparée hein, d'avoir perdu le Money in the Bank, du moins de ne pas avoir gagné la manette. Mais elle dit c'est pas grave, je suis Becky Lynch, donc qui que ce soit qui gagne ce soir, eh ben je veux un match à SummerSlam. Je vais pas me faire mettre des bâtons dans les roues comme j'ai eu toute ma carrière. C'est moi la patronne maintenant. Elle va rester aux abords du ring pour le match qui oppose Bianca Belair à Carmella. Un match évidemment 5 étoiles avec une Carmella en feu qui déroule toute sa technique, tout son savoir-faire, tout son art du timing. Elle donne maille à partir à Bianca Belair, qui est obligée de sortir son A-game. Donc, on a des étoiles plein les yeux jusqu'au moment où, à l'extérieur du ring, Becky Lynch vient, perturber Bianca Belair, qui oublie que, on peut pas rester plus de 10 secondes à l'extérieur du ring, et qui se fait décompter. Et c'est la victoire surprise de Carmella. On est sur le popotin. Retournement de situation, ça a buzzé pas mal sur les réseaux sociaux pour cette victoire de Carmella. Est-ce que vous étiez estomaqué, Letty? Je te laisse la parole.
Alors j'étais pas estomaqué, mais c'était un match qui était plutôt bon. Après Bianca, de toute façon, généralement, elle est plutôt bonne quand elle se bat pour sa ceinture, donc j'avais pas trop de soucis de ce côté-là. Après, pour un match de championnat, moi, j'ai toujours du mal avec les décomptes à l'extérieur ou les victoires comme ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. J'aime bien quand c'est carré et quand il y a une vraie victoire. Mais voilà, après, j'espère que voilà, ça y est, elle a eu son match, elle a eu sa revanche, qu'on passe à autre chose, puisque c'est vrai que Becky Lynch, j'étais plutôt d'accord avec elle quand elle disait qu'après son match contre Asuka, elle aurait dû avoir un match et qu'elle veut un match et que voilà, il faut lui accorder ce match. Maintenant, on laisse Carmella de côté et puis on passe à autre chose.
Carmella, la pauvre qui s'est pris un KOD après le match, quand même, parce que Bianca Belair n'était pas contente.
Ouais, elle n'aura pas eu trop fêté sa victoire. C'est un petit peu, c'est un petit peu trop titillé. Puis encore plus, elle fêtait la victoire avec la ceinture comme si elle lui avait pris. Donc, ça l'a un peu chauffé. Ouais. Arletty, je vais te décevoir, mais ce n'est pas fini entre, entre Carmella et Bianca.
Carmella gagne le match,
c'est pas fini et le match pour le titre est annoncé la semaine prochaine, donc ça sera fini ce lundi prochain. Donc voilà, donc
peut-être
une bonne chose de faite. Pour le reste, moi, c'est pas foufou, mais on sent comme qu'il y a comme plus d'envie que le segment précédent avec les gars dont on parlait. Becky fait du bon boulot, je trouve, moi, en termes de présence et en termes de figure heel qui veut avoir sa ceinture. Au moins, c'est une des, on en parle sur Discord, c'est une des rares personnes qui en a encore quelque chose à foutre des titres à la WWE. Mm. Et donc, je trouve qu'elle fait du bon taf. Carmella, elle fait vraiment la personne qui, pour l'instant, justifie le fait que Becky et Bianca se foutent pas sur la gueule. Mais bon, c'est au moins comme ça, c'est justifié. Il y a parfois, ils se font même pas chier. Lesnar et Reigns, on se demande pourquoi ils ne s'affrontent jamais. C'est jamais justifié. Ils sont juste pas là, ils ont juste pas envie. Eux, ils attendent le pay-per-view qui est en 3 mois. Par contre, là, Becky versus Bianca, on sait pourquoi c'est pas l'affiche. C'est que pour l'instant, Bianca n'a pas fini avec Carmella. Et ça sera logiquement la suite, le segment d'après. Donc, les trucs sont plutôt bien racontés. Après, les matchs avec Carmella, c'est jamais foufou. Même si toi, Rixac, je sais que tu étais passionné par cette opposition.
Ah oui,
non. Oui, alors, je sais, non, mais...
Carmella, elle n'est pas là tout le temps. Donc, quand elle sort un match, je pense qu'il faut en profiter, quoi.
C'est ça, ouais. On n'a pas toujours la chance de la voir à l'écran. Mmh. Mais bon, je trouve que ça reste du travail honnête. Et puis, on a la perspective d'avoir le vrai gros match derrière qui pour le coup fait vraiment envie entre Carmella, pas là, le botch, entre Bianca et Becky.
Ouais, on va l'avoir, notre revanche à SummerSlam, mais ce sera peut-être le meilleur match de la soirée. J'ai pas trouvé l'exécution, moi, du finish très très bien, très très bien tourné, surtout du côté de Bianca Belair, son acting, j'ai pas trouvé, mais bon, c'est un peu délicat de faire un... ce genre de finish si Becky Lynch, je peux pas frapper Bianca ou faire quoi que ce soit. Le match était propre. Becky, elle fait le boulot au micro. Bianca, c'est une bonne championne. Donc, là, ça fonctionne. Quand on a les bonnes personnes qui sont placées au bon endroit, on peut faire des trucs assez classiques comme ça, mais du coup, ça fonctionne, quoi. La suite des opérations, c'est toujours la construction de ce SummerSlam avec le Miz et qui nous offre un Miz TV où il est accompagné et aura pour invité Ciampa, l'ancien champion de NXT qui est un peu qui fuine un peu d'un Raw, qui s'amuse à attaquer des gens comme ça un petit peu au hasard et qui désormais s'associe au Miz parce que il veut tout à Monday Night Raw, Ciampa. Il veut être la star de Monday Night Raw et le moyen le plus simple, c'est d'être avec le Miz qui lui attire tous les regards, hein, qui est finalement une des top stars de Monday Night Raw. Donc il sait que pour réussir, il a besoin d'être avec le Miz. Le Miz qui revient un petit peu sur sa rivalité avec Logan Paul. Il propose bizarrement à Logan Paul quand même de le rejoindre et de faire une équipe, hein, d'oublier un petit peu leur rivalité. Et puis que sinon, il le détruira à Monday Night Raw. Hein. C'est comme ça. C'est lui la vraie star, le Miz, hein, il nous explique. Et ce soir, alors je vous l'ai pas dit, mais ils sont censés avoir un match handicap contre AJ Styles. Puisque la semaine dernière, après une victoire d'AJ Styles sur le Miz, Ciampa avait attaqué AJ Styles. Donc on est parti notamment pour un handicap match, mais ce sera pas le cas parce qu'il y a une musique qui retentit. Et c'est bien Ezekiel qui débarque au ring et qui propose d'être le partenaire de AJ Styles. Ce qui visiblement est accepté par l'autorité. Puisque après on a un match 2 contre 2 et c'est AJ Styles et Ezekiel qui réussissent à battre le Miz et Ciampa par disqualification, puisque AJ Styles est en train de porter une soumission au Miz quand Ciampa rentre dans le ring, commence à le tabasser et n'arrête pas malgré les injonctions de l'arbitre qui finit donc par le disqualifier. Donc voilà, victoire des gentils. Ciampa qui prend un petit peu le micro, on l'a entendu un petit peu parler, on connaît un peu plus ses motivations. Est-ce que vous êtes convaincu par cette alliance un peu contre nature entre Ciampa et le Miz et cette construction vers un tag team match sûrement avec Logan Paul, Papy peut-être?
Ouais, bah contre nature je sais pas, parce que Ciampa de toute façon il est totalement fantomatique depuis sa montée dans le main roster. Et c'est un heel générique, en fait. Ça pourrait être...
Son passif est complètement oublié. Hein,
c'est ça. Il a aucun truc pour le distinguer d'un autre. Il arrive avec son slibar, il a une musique générique, il a un personnage générique, il est juste méchant et il tape sur des gens. Ça pourrait être Sinisky, ça serait la même chose. Donc, c'est pas totalement déconnant que du coup, vu que c'est juste une brute, bah, il rejoint la top star qui est le Miz et puis il va lui servir demain. Ça me semble plutôt bien pour lui, hein, parce que de toute façon il était, comme je disais, inexistant depuis sa montée dans le main roster. Et puis ouais, je le sens bien aussi, moi, le tag team du coup Logan Paul et AJ Styles versus Miz et Ciampa. Ouais. Ça justifierait pourquoi AJ Styles est toujours dans le coin. Et puis Ezekiel du coup, lui, pour le coup, il est vraiment en train de faire le bouche-trou en tant que Owens revienne, en fait. Donc pour moi l'histoire irait dans ce sens là bon, on va voir ce que ça donnera, hein, le truc. Après c'était voilà, c'est ils occupent le temps, hein, encore une fois, avec un Logan Paul qui est absent. Enfin, on est vraiment confronté là à beaucoup d'émissions, on se retrouve à des rivalités entre gens pas là, et donc c'est jamais vraiment passionnant comme truc.
Ouais, surtout que le match s'imposait pas quand même. Bon, on l'a regardé quoi, mais ça avait pas vraiment d'enjeu. Puis ça n'a pas.
Et surtout que c'était complètement con, l'idée de. Excuse-moi de te couper, mais ce que j'ai oublié de le dire, mais le coup de la semaine dernière, Ciampa et Miz attaque AJ Styles, donc cette semaine pour les punir, bah, et du coup, ils auront un match handicap à 2 contre 1. C'est complètement débile, ça.
Ça n'a aucun sens. Letty, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Papy. Il n'y a pas grand sens dans la mesure, dans le match qui était prévu. Après, bon, Ezekiel, voilà, qui sert un peu de bouche-trou en attendant. Ciampa qui a mis quand même le temps avant de réfléchir quand il nous dit qu'il a compris, ça fait quand même un bout de temps qu'il est dans le main roster et ça lui aura pris du temps pour se rendre compte.
Il est un peu con, hein.
Il faut s'associer avec quelqu'un, un petit peu lent quand même. Mais oui, voilà, le match était intéressant sans plus. Après, pas trop d'intérêt. Et puis ben le Miz TV chaque semaine où il nous rappelle quand même qu'il a son émission. Heureusement qu'il y a Miz and Mrs après, sinon le Miz on le verrait peut-être pas aussi souvent, quoi. Je me dis, il vient faire sa promo.
C'est ça à chaque fois, hein, de toute façon.
À chaque fois, il nous le rappelle toutes les semaines au cas où on ait envie de regarder, quoi.
Ouais. Sauf que si ça passe après Raw, il doit être minuit passé, hein, pour regarder. Donc ouais, c'est bien de rameuter des gens, de motiver les gens. Hein.
Regardez ta merde.
Voilà. Donc, le mise voilà, en top star jusqu'à ce que la saison soit terminée. Alors après, on a un match Alexa Bliss et Asuka contre Doudrop et Nikki H, avec une victoire d'Alexa Bliss et Asuka. Je propose qu'on ne parle pas de ce match parce que ça n'avait, c'était bouche-trou quoi.
Je bouche-trou ou alors en tout cas, la semaine dernière Asuka avait chambré Bliss et cette semaine ils sont tag team et ils gagnent. Est-ce qu'il y a un programme entre elles? On ne sait pas.
Aucun sens.
Aucun sens.
Aucun sens.
Ouais. Ok. Bon ben voilà. Jobber's World, on appelait ça dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les champions tag team, les Usos, et sont sur le ring avec les Street Profits. Donc ils sont, bah, ils vont nous parler un petit peu de ce match qui s'annonce à SummerSlam où on est censé avoir un arbitre mystère. Bah, peut-être pas mystérieux que ça, puisqu'il y a Ertrus qui débarque et puis qui nous explique qu'il a plusieurs certifications, hein, et notamment conseiller conjugal, on va dire, pour les équipes. Donc, il propose de faire une petite discussion entre les deux équipes. Bon, on l'envoie bouler un petit peu. On lui dit non, nous, tout ce qu'on a besoin, c'est un arbitre spécial. Donc, tes conseils à la con, là, tu peux te les garder. Et Artrus dit, alors on lui dit, à moins que tu sois que t'aies un t-shirt d'arbitre en dessous de ton t-shirt, ça sert à rien de venir. Donc évidemment, Artrus, il a un t-shirt d'arbitre parce qu'il est aussi arbitre officiel. Il nous sort aussi son papier d'arbitre officiel. Et puis il nous fait une petite démonstration de comment il est un bon arbitre. Hein. Il fait le tomber 1, 2, 3, il fait le décompte à l'extérieur du ring. Alors tout ça est très... avec beaucoup de passion hein, dedans. Hein. Il se met vraiment en situation. Mais ça s'appelle pas beaucoup Wusso, qui sont pas venus pour rigoler. Donc il y a Jay ou Jimmy qui lui dit c'est bon, t'arrêtes tes clowneries là. Tu un peu de sérieux. Rentre au vestiaire, hein, arrête de nous saouler. Là, Artrus, il est pas content. Il dit ah, je suis un clown. Il prend le public à partie. Vous voulez que le clown se batte ce soir? On est presque parti pour la bagarre, mais il y a Omos et MVP qui débarquent, avec un MVP qui propose que Omos soit l'arbitre, pourquoi pas, du match. Puis bah, du coup, comme on y en a trois d'un côté, avec Omos, si on compte les Usos, ça fait trois aussi, donc pourquoi pas avoir un match. Et donc, après, on a un match 3 contre 3 avec d'un côté les Usos et Omos et de l'autre les Street Profits et Artrus. Ça se bat dans tous les sens jusqu'à ce que Omos finisse par chokeslammer Angelo Dawkins pour la victoire. Et c'est donc Omos et les Usos qui gagnent ce soir. Voilà. Est-ce qu'on parle peut-être tout de suite de ce qui se passe à SmackDown au niveau des Usos, parce qu'on les retrouve aussi en main event de...
Ouais, fait un gros paquet parce que c'était...
Un gros paquet.
Il y a un gros paquet à dire dessus, ouais.
Ouais, donc à SmackDown, on est censé avoir un match Angelo Dawkins contre Che Uso ou Jimmy Uso, je ne sais plus. Non, c'est Jimmy Uso.
Jimmy.
Voilà. Ils vont être au micro. En fait, ils arrivent parce que c'est Théorie qui est au micro. Après son match, il a un match contre Madcap Moss qui va perdre par disqualification après avoir enlevé un coup de mallette à Madcap Moss. Donc Théorie, après le match, il provoque un petit peu Moss au micro. Fout de sa gueule, mais il est interrompu par nul autre que Sami Zayn. Faut suivre, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Sami Zayn qui vient avec le bras en écharpe, là, apparemment il est blessé, et qui rappelle qu'il est le représentant de la Bloodline, et que, Théorie, à force de donner des menaces à Roman Reigns, ben, c'est carrément un manque de respect, donc il réclame des excuses. Théorie, il le prend pas au sérieux, il dit, mais qu'est-ce que tu veux, là, t'as le bras en écharpe, qu'est-ce que tu veux faire là, t'es zéro. Et c'est là que la musique des Usos retentit. C'est les Usos qui débarquent au ring. Mais bon, ils sont là, en fait, pour le match Jimmy Uso contre Angelo Dawkins. Donc, on a le match qui suit. On a, à un moment donné, Jimmy qui va percuter l'arbitre, Charles Robinson. Et après, à moitié sonné, Dawkins va faire le tomber sur Jimmy Uso. Mais après un spinebuster, mais comme Charles Robinson, il est un peu sonné, il voit pas qu'en fait l'épaule de Jimmy est levée. Et donc, il y a un compte de 3 quand même, c'est validé. Victoire pas très nette de Dawkins, ça me rappelle une histoire, mais je sais plus laquelle. Et c'est là que Adam Pearce débarque et il dit « cette fois c'en est trop », parce qu'effectivement à SummerSlam, déjà il y avait eu un souci d'arbitrage. Et puis là, encore un souci d'arbitrage. Alors ça va pas du tout. Donc voilà votre arbitre spécial, roulement de tambour, nul autre que Jeff Jarrett, Double J Jeff Jarrett, qui jouera à domicile parce que ça se passe à Nashville, le SummerSlam. Donc voilà. Donc comme tout le monde, hein, ça rend fou un peu ce genre de booking. Donc les Uso et les Street Profits se foutent sur la gueule jusqu'à ce que la caméra rende l'antenne. Grosse bagarre, hein, avec des arbitres qui essayent de s'intervenir, mais pas trop quand même. Voilà ce qu'il en est des Uso contre les Street Profits. Donc l'arbitre spécial, c'est pas Artrou, c'est pas Omos. C'est bien Jeff Jarrett. Je ne sais pas par où commencer.
C'était un sacré bordel, mais en fait, c'est compliqué à expliquer parce que l'histoire en elle-même est bordélique à souhait. Hein. C'est complètement foireux, ce truc-là. Donc, si on reprend dans l'ordre, il y a eu le comptage foiré à Money in the Bank. Ils s'en rendent compte durant le pay-per-view, mais bon, c'est pas grave. La décision de l'arbitre finale, on dit rien. La semaine d'après, ils disent rien. La semaine d'après, tiens, en fait, bah, du coup, pour le rematch, il y aura un arbitre spécial suite à l'erreur d'arbitrage. D'accord. La rebelote, ensuite, ils refont un truc la semaine d'après en disant, on sait pas que c'est qui l'arbitre, ce sera peut-être vous, ce sera peut-être pas vous, je sais pas quoi. Il y a les Street Profits qui, cette fois-ci, bénéficient d'une erreur d'arbitrage, dans leur sens. Et du coup, c'est là où ils justifient. Enfin,
par hasard.
C'est là où ils disent ah ouais, mais justement, on avait dit qu'il faut un arbitre spécial. Bah, ça confirme notre décision. Bah oui, tu parles. Le truc, qui va pas le bon sens non plus. Et alors, ça se finit comment cette affaire? Et oui, et derrière, tu annonces Jeff Jarrett venu nulle part aussi en disant bah c'est l'homme local. Oui, mais sauf que t'es pas à Nashville, Tennessee quand tu lui annonces ça. T'es à San Antonio, Texas ou dans t'es à Orlando, Florida. Donc il est pas là non plus. Il est pas là, il y a pas le public pour popper. Enfin bref, c'est totalement foireux. Je pense qu'ils auraient totalement mieux joué le coup d'annoncer l'arbitre spécial après la deuxième erreur, parce que ça aurait fait sens de mettre un arbitre spécial après deux erreurs et non pas après juste une, parce que ça arrive tous les jours qu'un arbitre ne voit pas une épaule qui est levée ou un truc comme ça. Et surtout d'annoncer Jeff Jarrett le jour J, en fait. Qui est, de toute façon, c'est pas ça qui va faire acheter des places. Ou vendre des vues sur Peacock ou je sais pas quoi. Jeff Jarrett, tout le monde s'en fout de Jeff Jarrett, sauf les gars dans la salle ce jour-là. Donc ça leur a fait plaisir à eux, mais bon, je sais pas, ils ont tout merdé. Puis c'est une histoire qui n'a pas de sens et qui est totalement merdée, je trouve.
Ouais, je pense qu'on a buté sur à peu près tous les obstacles possibles. Et puis même de base, je vois pas. Alors je sais pas s'ils l'ont improvisé parce que ça se voyait trop qu'il y avait cette épaule, mais ça avait l'air d'être prévu quand même, se lever l'épaule. Donc si vraiment leur plan, c'est depuis un mois d'avoir Jeff Jarrett comme arbitre spécial, il faudra qu'on m'explique quand même. Letty, toi, tu es une grande fan de Jeff Jarrett, hein, il me semble. Donc
ouais, évidemment. Mais c'est vrai que cette histoire, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils, mais un peu comme ils font ces derniers temps, ils annoncent des trucs. Et après, ils se disent « Merde, il faudrait qu'on donne une logique de pourquoi on fait ça. » Et donc, ils nous donnent le pourquoi, mais après, en fait. C'est bizarre. Et... oui, voilà, ça n'a pas de grand sens. On en reparlera, je pense, au niveau de SmackDown par rapport à d'autres trucs. Mais non, c'est toujours... c'est un peu n'importe quoi, en fait. Le seul point positif que j'ai trouvé dans cette histoire sur Raw, c'est R-Truth qui nous donne au moins un peu de divertissement. Ouais. Et voilà, qui nous évite la xème redite entre Jimmy et un des Street Profits, quoi. Ça donne au moins un peu d'air frais, quoi. Enfin, moi, j'aime bien Artruf en plus. Donc,
ouais. C'est plaisir de voir Artruf catcher, hein, notre brave ancien là, qui a toujours la forme malgré l'âge avançant.
Ouais. C'était un peu. Oui, il était dans toujours, Il était dans le ghetto 24/7 hein, depuis un moment. Mais voilà, on voit qu'il est super bon en comédie en plus. Donc effectivement, je te rejoins. C'était la bonne surprise du truc d'avoir ce petit passage de Artruf qui fait en plus son petit cosplay de John Cena là. Donc c'est. Puis il n'arrive pas à enlever son t-shirt à un moment, c'est rigolo. Parce qu'il essaie de l'enlever à John Cena, je crois. Et il est bloqué, on est obligé de l'aider. C'était rigolo. Ouais, bah, par contre, sinon, ça n'a aucun sens. Et puis surtout, pourquoi s'emmerder à faire tout ça juste pour l'arrivée de Jeff Jarrett, quoi. Effectivement, comme tu dis, papy, on n'en a rien à foutre de Jeff Jarrett. Je ne suis même pas sûr qu'à Nashville, ils en aient quelque chose à branler hein, du passage de Jeff Jarrett. Mais bon.
C'est complètement con. Mais Letty a dit la phrase juste. Hein. C'est il décide de trucs et ensuite après il essaie de le justifier.
Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais.
C'est complètement pourri.
Ouais, je sais pas. Bon, Jeff Jarrett, Bruce Prichard, c'est des très bons copains, donc ça peut expliquer le truc aussi. Mais franchement, c'est zéro pour nous spectateurs, c'est zéro pointé hein, du début à la fin. Genre à un moment, il propose même Homos comme arbitre spécial. Et qu'est-ce que tu veux faire d'Homos un arbitre? Il peut même pas.
Il peut pas
jamais toucher. Faire le compte de trois. C'est débile. C'est débile. Alors Raw, ça s'arrête pas là. Il y a une vignette mystérieuse pour le mystérieux mystère de qui va revenir.
De Edge.
De Edge, ouais. Bah, ça ressemble beaucoup à Edge. Hein. Alors, je sais pas où on en est rendu avec ça, mais je crois qu'on a visé juste.
On a déjà regardé la première vidéo. C'est vrai que j'avais vu les détails comme les lunettes des Dudley, les gants de Jeff Hardy, tout ça. Donc ça ressemblait fortement à Edge. Et puis alors là, tu nous sors Cena, Orton et
Mick
Foley en flamme. Bon, ça peut être que Edge.
Voilà. Bon, ils visent, je sais pas, qui c'est qui peut pas se douter de ça. Vraiment, ceux qui n'ont pas suivi. La WWE depuis longtemps, on verra bien s'ils ont prévu autre chose, mais je vois pas comment ils pourraient en être autrement.
Peut-être Lita, hein.
Peut-être Lita au final, ouais, c'est ça. Je me suis dit aussi, peut-être c'est une gonzesse. Ou alors c'est Bray Wyatt, en fait. Et, ça collera pas, mais c'est pas grave. Il est annoncé que l'homme Gal Paul fera son retour à Raw lundi prochain.
Tant mieux.
Parce qu'on s'en fout, parce qu'on arrive quand même au main event, qui est un tag team match avec le Almighty Bobby Lashley et Riddle, qui affrontent Seth Rollins et Theory. Alors, il y a plein de vignettes backstage avec Riddle qui vient parler notamment à Bobby Lashley. Et on a aussi Seth Rollins en interview. Alors, c'est marrant parce que Riddle, il propose à Bobby Lashley, avant le match, d'aller regarder Stranger Things. Parce qu'il a peur de regarder tout seul. Bobby Lashley dit qu'il a déjà regardé. Mais bon, rendez-vous sur le ring. Seth Rollins, lui, il va devenir le mentor de Theory. Hein, parce que Theory lui demande un peu des conseils hein, sur comment bien utiliser la madelette. Donc voilà, la routine. Le match commence, ça se fout sur la gueule. Et puis d'un seul coup, surprise du chef, il y a une musique qui retentit. I'm here to show off. Le show off, Dolph Ziggler. Il est de retour, nous attendons. Alors, on ne savait pas qu'il était parti, mais il est de retour. Le Dirty Dog, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec Bobby Roode. Il avait mis un super kick à MVP. Eh bien, là, on ne sait pas pourquoi il est là. Les commentateurs ne savent pas pourquoi il est là. Il vient s'asseoir aux abords du ring. Il regarde le match. À un moment donné, il y a Theory qui essaye de faire un tombé en mettant les pieds dans les cordes. Ziggler il se lève, il enlève les pieds du cordes de Theory. Theory il est pas très content, puis il se prend un RKO par Riddle. Il a perdu le match et hop, après le match, Ziggler se glisse sous les cordes et il vient foutre un super kick à Theory. Et c'est ainsi que se conclut l'épisode avec le retour tant attendu de Dolph Ziggler après des semaines d'absence. Le vrai champion US, hein, je vous rappelle, Dolph Ziggler. Surprise du chef, le retour de Dolph Ziggler. Letty, t'es contente de revoir Ziggy?
Oui, après, à voir s'il est revenu pour rester ou s'il est revenu, voilà, juste pour attaquer Théorie et qu'on le revoie plus pendant 3 mois, comme la dernière fois. Alors, je ne sais pas, puis je suis un peu perplexe, en fait, parce que personne l'attendait là, en fait, dans ce match-là. Et voilà, pourquoi est-ce qu'il est tout seul? Pourquoi, enfin, il nous annonce, voilà, son retour, mais est-ce que c'est définitif ou pas? J'ai plus de questions que qu'autre chose, en fait.
Où est Bobby Roode?
Et oui, voilà, c'est ça. Pourquoi il est tout seul? Pourquoi? Je sais pas. C'est bizarre. Hein.
On dirait qu'ils ont improvisé ça le lundi, comme ça, avec les mecs qui
Oui,
étaient
voilà,
dans le vestiaire,
c'est
hein.
ça.
C'est
Ils en
bizarre.
ont vu un qui courait. Là, tiens, toi, au fait, viens par là, va sur le ring, on a besoin de toi. Mais voilà.
Parce qu'on n'a pas de nouvelles de Kevin Owens ou de gens comme ça, donc il y a peut-être, y a quand même pas mal d'absents. Donc c'est peut-être l'occasion pour Ziggy de briller une dernière fois face à Théorie. Papy, toi, c'est ça te
Bah
suscite
ça.
un quelconque.
Non, mais ça pourrait m'intéresser si on n'avait pas constaté depuis des semaines que Roth est géré, je pense même écrit durant le show.
Ouais.
Et donc, du coup, bah, je crains simplement que ça n'ait aucun. Pas aucune suite, parce qu'ils vont forcément faire une suite quand même au truc, mais par contre, faut pas s'attendre à un truc dément, je pense. Donc, ça fait plaisir de le revoir, Ziggler, avec son joli costard, mais bon, hormis ça, j'ai pas sauté au plafond non plus, quoi.
Ouais, il était bien habillé, quand même. On peut le
Voilà,
dire, et ça
il
fait
était classouille.
plaisir. Voilà, ça fait plaisir de voir des gens bien habillés. Bon, on l'offre en pâture à Théorie. Visiblement, Théorie, ils veulent faire monter dans le main event. Hein. Je pense que c'est son année. Donc, il y a le gardien de la porte, hein, comme on l'appelle, le gatekeeper. Ziggy, qui est là. C'est généralement le premier mec que tu affrontes pour avoir un petit peu d'étoffer un petit peu ton CV, quoi. Une victoire contre Dolph Ziggler, ça fait toujours plaisir après une bonne feud. Mais bon, si on en est à ressortir Artruss et Ziggler, c'est
Bah.
que quand même on est en galère. Hein.
Oui, ouais, après, encore une fois, hein, ça peut être très bien
Ça peut être très
de
bien, ouais, non, c'est
avec
souvent
eux,
aussi
hein, mais
la dit
faut
surprise.
c'est ça, faut les sortir avec une vraie idée de programme et pas juste les sortir en disant bon bah vous allez nous occuper un mois puis ou une soirée, parce qu'Artruss, je suis pas sûr qu'il aille au-delà de la soirée de lundi. Mais et par contre, si tu leur mettais un vrai petit programme sympa, je suis sûr qu'ils feraient quelque chose de très bien, c'est des vrais professionnels, quoi. Mais là, j'ai vraiment plus l'impression que bon, il nous manque 5 minutes. Si tu pouvais faire un truc un peu choquant pour qu'on
Voilà.
finisse roux sur un truc choquant,
Ouais,
mais
parce que
bon,
là,
c'est
sinon, il
choqué
n'y
pour
avait
choquer,
rien. Hein.
quoi.
On avait un match qui sans saveur entre Bobby Lashley et Riddle contre Rollins. Et Théorie, bon, Riddle et Rollins sont en feud hein, maintenant, désormais. Puisque la semaine dernière, Riddle avait claqué un petit RKO en traite à Seth Rollins. Après une sortie d'une fin de match, là. Donc voilà. Bah, on rajoute Ziggler dans le mix. Hein. Pourquoi pas? On verra bien ce que ça donne la semaine prochaine, hein, tout simplement. Bon, qui dit super chaud dit deux notes, deux mots de la fin. Donc on a le mot de la fin au milieu. On va donner un top, une note et une flop. Un top, un flop, une note plutôt, quand
Bah, dis
on
les choses dans
parle
l'ordre,
bilan.
allez.
Je tiens à préciser qu'il fait 50 degrés où je suis, hein, donc c'est pour ça que. Bon. Bon, allez, qu'est-ce que tu donnes que. Bon, papy, en
Qu'est-ce
top, en
que je
flop.
donne? Pouah! J'ai déjà oublié ce qui était top. On va le donner à Artrouf, le top. Allez, voilà.
Bah
Artrouf,
oui, je l'ai dit,
Artrouf, ça
comme
fait
tout.
plaisir, Artrouf.
Je pense que tout le monde donne un
Il...
top à Arthrous.
Voilà, il a de bons restes, le vieux. Il nous fait rire. Il sait encore catcher. Il a encore de la psychologie, tout ce qu'il veut. Voilà, c'est un bon professionnel, Artrouf, et c'est toujours plaisir de le voir travailler. Le flop. Pop, pop, pop. Alors, comme c'est un flop que pour Raw, je ne vais pas le donner tout de suite aux Usos, ce sera pour SmackDown, hein, je l'annonce tout de suite. Par contre, pour qui je peux le donner d'autre qu'est-ce qu'il y avait qui était chiant Ah ouais, le jugement de Dave Mysterio, là, c'est pas possible.
Voilà, pas de
J'en
surprise.
veux plus, j'en peux plus de ces gars-là, moi. Donc voilà, flop et la note, ben, j'étais parti sur un esprit de mettre pas une. Trop sale note parce que bah finalement j'ai eu le SmackDown après qui m'a fait revoir mon jugement mais en réécoutant le truc je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de merde donc je vais donner un simplement 2 pour ce Raw.
Simplement deux. Letty. J'attends un top à Air Trousse, hein, je te dis tout de suite.
Ah oui, mais c'était prévu, parce que de
Bon,
toute façon, il n'y
je
a eu que
préviens.
ça qui était vraiment intéressant. Voilà, il donne bien le côté un peu entertainment. Voilà, donc le top pour Ertrousse. Le flop, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y avait, ça se joue entre beaucoup de monde. Mais je vais le donner au tag team féminin, puisque voilà, c'était tellement intéressant qu'on n'en a même pas parlé. Donc flop. Et la note, je vais dire un tout petit 2,5. Et vraiment le 1,5 qui est rajouté pour Ertrousse.
Ah, t'es bien généreuse. Voilà. Et merci à Ertrousse. C'est vrai que le match tag team était particulièrement nul en plus. Mais bon, ouais, ça n'aide pas. Ouais, bah moi je vais vous rejoindre. Hein. Je vais donner le top évidemment à Ertrousse. Le flop, bah, le flop, il va aller au jugement de D. Hein. Ouais. C'est pas bon. C'est pas real vent, comme on dit. On en a marre de Dominique Mysterio, tout ça. Bon, bref, rien ne va. Moi, je vais mettre 1, hein, parce que c'était nul, hein, ce Monday Night Raw. Voilà, c'est des mauvaises idées, mal appliquées. Le minimum syndical, Brock Lesnar. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette route vers SummerSlam. Mais il manque trop de têtes d'affiche. Il nous manque Cody Rhodes, il nous manque Kevin Owens, Roman Reigns n'est pas là. Brock Lesnar est venu cette semaine, mais on sait qu'on ne le reverra plus. C'est pareil pour chez les filles, on a perdu Sasha Banks. Bayley, ils n'ont pas l'air de vouloir la faire revenir. Donc voilà, si on ne garde que les moyens, on a un show plus que moyen. Quoi.
Et ça confirme en tout cas que ce qu'on se disait parfois en regardant les segments, notamment avec Kevin Owens, c'est qu'en fait, ça fait un bout de temps finalement qu'ils ont des scénarios tout pourris, mais que les gars, en fait, à eux tout seuls, ils arrivent à faire tenir le truc cohérent, quoi. Mais alors, quand maintenant, tu gardes que des gars qui sont un peu moins expérimentés, qui du coup, eux, vont suivre à la lettre le scénario qu'il leur a écrit, voilà, ouais. Ça donne ça, quoi.
Ouais, voilà, ça donne cette espèce d'amalgame indigeste, hein, parce que ça dure une plombe en plus, hein, dans des nitro. On va enchaîner avec SmackDown pour voir si c'était mieux, car on a toujours de l'espoir, le French Hope, on appelle ça. Vous pouvez retrouver à mal The French Hope dans NXT UK tous les samedis sur AB1 après SmackDown.
Belle pub.
Et ouais, elle a gagné cette semaine d'ailleurs.
Ah, bravo Amal.
Bravo.
C'est pas mal, Amal.
Oh, jeu de mots. Bon, allez, on est à SmackDown, on est à Orlando, en Floride, au Amway Center, c'est Michael Cole qui accueille nul autre que l'immensément populaire Pat McAfee, car Pat McAfee était absent la semaine dernière, hein, d'ailleurs il s'en excuse, hein, comme il s'était fait tabasser par Happy Corbin. On a dû supporter Corey Graves toute la soirée au dernier SmackDown. C'est vrai que c'est pas facile, Corey Graves, quand même. Et puis ensuite, il nous parle d'Happy Corbin. Voilà, il dit qu'Happy Corbin, c'est un crétin, tout ça. Mais il se fait couper la chic par Happy Corbin, qui est dans les vestiaires. Il menace Pat McAfee. Hein, il dit, je serais bien venu te péter ta gueule. Mais il peut pas ce soir parce qu'il a la variole du singe, apparemment. Il a des plaques rouges sur l'avant-bras. Hein, il nous les montre. C'est que ça. Donc, je pourrais pas venir aujourd'hui. Donc voilà, ça s'arrête là. Pat McAfee contre Corbin. Il y a Pat McAfee qui explique quand même qu'ils étaient compagnons de chambrée, hein, à l'université, ou enfin quand ils étaient footballeurs américains, les deux. Donc voilà, ils se connaissent quand même depuis avant. Et puis bah, ils aiment bien se foutre de la gueule de Corbin. C'est la grosse, une des grosses rivalités de SummerSlam, Pat McAfee contre Happy Corbin. Letty, est-ce que comme moi tu es dans la compréhension face à la popularité de Pat McAfee, ou est-ce que tu fais partie du fan club de Pat McAfee?
Plutôt du côté fan club. Enfin, moi j'aime bien Pat McAfee. Et je trouve qu'il est bon, après il sait bien parler. Hein, voilà, il arrive, il est motivé. Il met de l'ambiance. Il arrive à démarrer le show d'une manière un peu énergique par rapport à ce qu'on avait eu la semaine dernière avec une entrée qui avait duré trois plombes de Roman Reigns. Là, au moins, on démarre sur quelque chose d'un peu plus, un peu plus dynamique. Après, bon, bah, on en revient toujours. Bon, là, il était là, Corbin, mais il n'est pas venu. Enfin,
Bah
on
non.
reste sur le
Même lui,
même
il vient
truc. On
plus.
a, voilà, on n'a que des rivalités qui sont voilà, par écran interposé. À aucun moment, on arrive à les avoir les deux en face à face et qu'il se passe un truc. Donc, après, on verra bien. Mais
Parce
c'était intéressant comme entrée, je trouve.
que ouais, c'est con. Ouais, le seul truc de violence qu'on a eu finalement, c'était à Money in the Bank, mais après Money in the Bank.
Oui, voilà, c'était même pas télévisé en fait, on l'a pas vu, enfin à part sur le site, mais on l'a pas vu en direct en plus.
Ouais. Mais un Pat
Donc,
McAfee qui tient bien le micro et puis qui a la foule derrière lui, hein, quand même. C'est sûrement un des mecs les plus over du roster. Papy, toi, convaincu par le commentateur
bon,
star?
plutôt dans le sens où c'était assez court en fait finalement comme segment. En plus, bah, Pat McAfee, il est. Moi, je suis plutôt ceux qui l'aiment bien. Alors, je pense pas non plus que c'est un génie non plus, mais je trouve qu'il est quand même plutôt bien son boulot. Il arrive à bien tenir la rivalité. Et Corbin qui est en face est aussi un bon pro, malgré tout. On se rend compte là actuellement, au moment où on traverse ces périodes difficiles dans les deux shows, bah Corbin, mine de rien, il continue à faire le taf. Donc du coup, leur petite opposition était plutôt sympa. Puis j'ai trouvé surtout bien, comment dire, bien fluide par rapport à ce qui au démarrage du show et la suite directe, parce que du coup, ils enchaînent directement avec un autre segment dans la foulée. Et donc j'ai trouvé que ça se passait plutôt bien et que bah là pour le coup on a la rivalité. Finalement ils ont beau ça doit être une rivalité avec un guest qui est Pat McAfee, et comme plus de contact qu'entre Brock Lesnar et Reigns, hein, mine de rien. Donc ça reste sympa et puis ça prend moins de temps, donc c'est plus sympa à suivre.
Ouais, il n'y a pas beaucoup plus de contacts que ça, bon, voilà, au moins il y a la foule qui est derrière, il est vraiment très populaire, ce Pat McAfee. Moi je suis désolé, je trouve pas plus de talent que ça, Pat McAfee, hein, voilà, on peut pas dire que ça marche pas, en tout cas, il a réussi son rôle, il était à WrestleMania, c'était quand même un sacré moment, son match, c'est contre Theory, hein, je crois, à l'époque. Donc, ben voilà, hein, on est obligé de lui laisser la place et le temps d'antenne. Et il annonce donc l'arrivée de Liv Morgan, hein, la nouvelle championne, qui arrive au ring pour affronter évidemment Natalia. Donc il y a un match et c'est Liv Morgan qui gagne en assénant son finish, le Oblivion. Je crois qu'il n'y a rien de plus que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match?
Bah,
Papy?
qu'est-ce qu'on
Je
a pensé de ce
j'essaie de me
match?
souvenir s'il y avait quelque chose de spécial, mais rien, hein.
Non, c'est le match dont on a vu beaucoup d'images sur Internet traîner ces temps-ci en house show où Natalia gueule sur Liv Morgan parce qu'elle foire son finish. Et bah, cette fois-ci, a priori, ça s'est bien passé puisqu'elle a pas gueulé ou alors parce qu'elle savait que c'était à la télé donc du coup elle l'a pas fait. C'est la victoire de Liv. Le match en lui-même pour moi n'a pas d'intérêt. Ce que je trouvais un point plus intéressant, c'est le petit segment post-match micro où Kayla Braxton va interviewer Liv Morgan et lui dit bon bah alors tout le monde dit que vous allez vous faire rouler dessus par
Oui.
Ronda. Même moi je le dis, de toute façon Ronda elle était blessée, là elle va te péter ta gueule. Et Liv qui a comme sorti un truc un poil plus combatif que d'habitude, elle était pas en mode oui, de toute façon avec mes tweetos, vous allez voir, on va gagner.
On n'a pas
Là,
pleuré.
elle a pas pleuré, donc elle a dit qu'elle avait été underdog toute sa vie puis qu'elle gagnerait cette fois-ci, etc. Qu'elle ferait mentir les gens. J'ai trouvé ça un poil plus combatif et surtout bien droit au but dans son discours. Et donc j'ai plutôt apprécié le micro post-match de Liv Morgan. C'est la première fois où je me dis, bon, bah, elle dit pas des conneries.
Voilà. Letty, toi aussi, convaincu?
Oui, bah, je suis d'accord parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils mettent un peu plus de moyens pour essayer de l'aider parce que après sa victoire, elle était lâchée un peu comme ça. Là, je pense qu'ils ont compris qu'elle a besoin d'être un peu encadrée et un peu entourée puisque bon, elle a eu quand même la présentation par Pat McAfee en arrivant et après elle était interviewée directement sur le ring. Il la laisse plus trop faire des segments toute seule, toute seule. En fait, je pense qu'elle n'est pas prête et ils ont dû comprendre. Donc, elle était un peu moins nulle au micro que d'habitude. Donc, ça fait plaisir. Après, le match en lui-même, il n'y avait pas grand-chose à dire, mis à part qu'une fois de plus, ils font des contenders match contre les championnes. Et ça, c'est. Enfin, voilà. Je comprends toujours pas l'intérêt de faire ça. Mais au moins, il va gagner. C'est déjà pas si mal. Hein.
Ouais, c'est un championship contenders match. Je croyais que c'était un match pour le titre, tu vois. Ok. Ouais, non, ça a toujours pas de sens, hein, cette histoire de championship contenders match. C'est la plaie des weeklies. Oui, bon, bah voilà, Liv Morgan dans ses œuvres. On est content pour elle, hein, elle affrontera Ronda Rousey à SummerSlam. C'est bien parce que Ronda, elle veut pas de la ceinture qu'elle risque de gagner quand même. Il est annoncé que Logan Paul sera de retour à Raw ce lundi pour confronter le Miz. On l'a déjà dit, mais on se répète. Xavier Woods et Kofi Kingston y débarquent, grimés en Viking Raiders. Ils nous font la blague. Donc c'est assez rigolo, hein, parce qu'il y a Kofi Kingston avec une grosse moustache. Il a mis un gros ventre aussi. Pour imiter les Viking Raiders, il perd un peu sa moustache, pardon, pendant qu'ils font leur petit sketch. Là-dessus, il y a les Viking Raiders qui débarquent, ils sont pas contents. Ils viennent au ring et ils sont attaqués par Jinder Mahal et Shanky qui étaient en embuscade. C'était un piège du New Day. Le New Day qui a pris un peu des leçons, hein, puisque ces dernières semaines, ils n'arrêtaient pas de se faire botter les fesses par les Viking Raiders. Eh bien, ce soir, c'est pas le cas. Le piège se referme sur les Viking Raiders. Et après, on a Shanky et Jinder qui dansent dans le ring avec le New Day, toujours grimé en Viking. J'ai bien aimé le costume du New Day. Je sais pas, toi, papy.
Le costume était sympa. Le costume était sympa. Je me suis dit quand même que les Viking Raiders étaient montrés super forts puisqu'il fallait les attaquer à 2-1 pour s'en sortir. Ouais. Et que bah en fait c'est le dernier recours des New Day qui la semaine dernière avait tenté le coup et puis s'était fait laminer. Là ils sont obligés d'appeler Jinder et Shanky pour les aider. Tu dis que Jinder et Shanky ont dansé. Jinder Mahal pour l'instant se retient de danser. Hein.
Ouais,
Il y avait le petit
presque.
sourire en coin mais il s'est pas lancé.
C'est tout le suspense de cette rivalité. Est-ce que
C'est ça.
Jinder va danser ou pas?
Quand est-ce qu'il va craquer son slip et qu'il va se mettre à danser? On ne sait pas mais ça. Ça devrait arriver parce que Jinder, on sent qu'il aime la déconnade, comme ce Jinder. C'était pas un membre des Triambi pour rien, quand même. Mais bon, sincèrement, ça me dérangerait pas s'ils se battaient un peu plus souvent dans le ring, ces équipes-là, parce qu'il y a peu de catch. Et s'il y avait, je sais pas moi, la volonté d'aller chercher un titre un jour, hein, on en parlait tout à l'heure, la capacité des catcheurs à viser des ceintures, bah, c'est le cas aussi en tag team. Tout le monde s'en fout finalement du titre que les Usos ont. Et puis bah a priori bah, ces trois équipes là en font partie, ils ont plus envie de rigoler entre eux.
Voilà, on se tape sur la gueule. Et je t'avais dit qu'on allait vers un triple frite pour SummerSlam.
Attends, on n'y est pas encore, hein.
On va voir, on prend les paris. Letty, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Après,
Je crois
oui,
pas que tu
c'était
vas y échapper, hein, de parler de ce moment.
Faut en parler, qu'est-ce que tu dis?
Alors, Shanky, il est rigolo ou pas? Pas vrai, ça.
Écoute, c'était divertissant, mais après, voilà, c'est vrai qu'un peu plus de matchs, ce serait bien aussi. Et puis, je suis d'accord avec Papy sur le fait qu'il pourrait mettre au moins un contenders match ou quelque chose. Enfin, voilà, essayer de se dire il y a autre chose et pas juste on est là, on rigole, on se grime comme les autres et voilà, on essaye de les attaquer. Après, voilà, c'était. Quand même divertissant et puis voilà Jinder je sais pas parce que vous aviez l'air de penser plutôt au côté il va se dérider et danser moi quand je l'ai vu comme ça j'étais plus sur le côté est-ce qu'il va frapper et faire un 3 contre 3 enfin tu vois je sais pas j'étais un peu plus de l'autre côté je me disais est-ce qu'il va plutôt voilà lâcher Shanky et se mettre vers les Vikings
Ouais, c'est
après
tout le suspense
le
que tu
suspense voilà
ce qu'il
Il
va
aura
trahir
raison.
Shanky. On verra, ça nous tire en haleine chaque semaine. Mais j'imagine le temps qu'ils ont dû passer à se faire maquiller les deux pour 3 minutes d'antenne, le New Day, quand même.
Oui,
Mais bon.
tu avais raison de le dire, le costume était recherché, effectivement.
Ouais. Gros travail de cosplay. Allez, on enchaîne avec Lacey Evans qui ce soir doit affronter Aaliyah. Cette fois-ci, c'est pour l'affronter, hein. On est d'accord.
Oui.
Parce qu'il n'y aura pas de match derrière, hein. Puisque Lacey Evans trouve que la foule n'est pas assez réceptive à sa venue. Hein. Il n'y a pas assez de hurrah. Elle insulte les fans et puis finalement, elle ne veut pas se battre. Elle rentre à la maison. Ce qui nous arrange, hein, parce qu'on n'avait pas envie de voir le match de toute façon.
Non, mais ça viendra.
Hein, tout ou tard.
On y viendra.
Vous avez quelque chose à dire là-dessus ou...
Bon, c'est, alors, pour le coup, c'est, je n'en veux pas ces segments-là. C'est le processus classique de passage du heel turn. Et donc, du coup, Lacey Evans va y aller petit à petit. Et puis, on l'aura le match contre Aaliyah qu'elle va broyer normalement parce que c'est, elle joue pas dans la catégorie, ces filles.
Hein. Letty, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Non, bah après, c'est voilà, le segment normal. Après, c'est vrai que ce qui est bête, c'est que quand ils ont essayé de la passer en face, on a eu droit à 4, 5, 6 semaines, je ne sais plus, de vidéos pour essayer de nous faire pleurer. Maintenant, on va avoir 4, 5, 6 semaines où elle va venir pour rien. Donc, c'est juste ça, en fait. Je me dis, ils auraient dû la ramener heel tout de suite, ça aurait été plus simple.
Ouais.
Mais non, je pense qu'Aaliyah, il faut juste qu'elle se prépare à se faire écrabouiller bientôt.
C'est ça. Psychologiquement, il faut qu'elle se prépare. Et on s'est quand même retapé les vidéos de Lacey Evans quand elle racontait sa vie. Hein.
Aussi, oui.
C'était pas si court que ça, quand même. Ensuite, on a un match pour avoir un challenger numéro 1 au championnat Undisputed de champion de l'univers de la WWE qui se déroulera à Cardiff, Clash at the Castle. Si Drew McIntyre bat Sheamus, il sera le contender et inversement, si Sheamus bat Drew McIntyre, ce sera lui le contender, l'aspirant numéro 1. Hein. Mais c'est pas ce qui se passe parce que donc il y a Drew McIntyre qui vient au ring tranquillou, il y a Sheamus qui débarque avec Butch et Ridge Holland, ses comparses, mais c'est Ridge Holland qui a annoncé au ring, en fait. Donc là, les commentateurs comprennent pas. C'est Ridge Holland qui fera affronter Sheamus. Est-ce qu'il est encore malade? Parce qu'on sait que la semaine dernière, il avait un petit peu le Covid. Alors c'est Butch qui avait dû se passer à la place. Là, on sait pas pourquoi. Il y a Butch qui va chercher la cloche. Il fait sonner la cloche. Sheamus, il dit, mais pourquoi tu fais sonner la cloche? Et puis il y a le match qui démarre. Ridge Holland n'est pas prêt. Il se fait taper dessus par Drew McIntyre. Puis Drew McIntyre qui finit par gagner le match avec le Claymore Kick. Donc on n'en sait toujours pas plus. Hein. Est-ce que Drew McIntyre a gagné son droit à un match à Clash of the Castle contre le champion? Rien n'est moins sûr, rien n'est moins clair. Est-ce que ça a merdé au niveau de l'annonceur quand ils ont tout de suite annoncé Ridge Holland à la place de Sheamus?
Je pense.
C'est mystérieux. C'est ta théorie, papy?
Ouais, moi, ma théorie, c'est gros foirage.
Parce que sinon, ça n'avait aucun sens, le sketch qu'ils ont fait. Hein. C'est Sheamus qui descend pour empêcher Butch de taper sur la cloche. Et donc, du coup, le match démarrait avec Ridge Holland à la place de Sheamus.
Voilà, je pense que c'était ça l'idée. C'était qu'en fait, ils annonçaient Sheamus et qu'au final, Ridge Holland était dans le ring avec Sheamus. Sheamus sortait, puis il y avait le gong sonné par Butch. Et du coup, c'était... un match Drew-Ridge Holland qui démarrait alors que c'était pas celui qui était prévu. Je pense que c'était ça l'idée.
Même ça, ça n'a pas trop de sens quand même.
C'est déjà un peu pourri comme idée. Mais alors en plus, quand tu rajoutes l'annonceuse qui annonce Ridge Holland dès l'entrée, alors là, c'est cuit quoi. Tu comprends rien parce que du coup, ils ont quand même joué la comédie derrière, mais ça n'avait plus de sens. Puisque, pourquoi Sheamus en fait est dégoûté que le match démarre vu que c'est le match qui est prévu? Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est couillon, ça fait partie. Des choses, je pense que c'est ce que voulait évoquer Letty tout à l'heure en disant qu'il y a des trucs prévus à l'avance et puis qu'ils essaient de justifier ensuite mais qu'ils galèrent. Le Drew McIntyre est annoncé en tant que challenger numéro 1 depuis Perpète pour la ceinture universelle à Clash of the Castle. Tu lui rajoutes Sheamus en disant ouais mais non, il va y avoir un match entre les deux qui n'a jamais lieu, on sait pas pourquoi c'est les deux, c'est comme ça, mais bref, c'est totalement con, voilà, j'ai cherché le terme, mais con c'est très bien. Ils ont eu du bol d'Arm Flop la semaine dernière, sinon ils l'auraient chopé cette semaine encore, ces couillons.
Ils ont le totem. Letty ?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est effectivement de ça que je parlais, dont je voulais parler tout à l'heure, puisque Voilà, ça fait 3-4 mois. Enfin, quand ils ont mis en vente les tickets pour Clash at the Castle, Drew nous a annoncé sur le ring, ce sera moi contre Roman Reigns. Donc bon, voilà, on a tous compris. Et finalement, ils se disent, ah oui, mais là, on a quand même encore tout un été, il faut qu'on comble, on ne sait pas trop quoi faire. Alors on va essayer de. Voilà, peut-être que depuis 3 mois, les gens, ils ont oublié, je ne sais pas, ils pensent peut-être qu'on n'a pas de mémoire. Et oui, ça n'a aucun sens. Et puis là, en plus, voilà, le fait que leur petite mise en scène soit complètement loupée par l'annonceuse, à mon avis. Mais oui, enfin, ça n'a aucun sens. Bon, c'est toujours plaisant de voir Drew sur le ring, mais voilà, ça n'a aucun sens.
Ouais. Et en plus, alors c'est déjà ce qu'ils nous avaient fait à Paris dans le House Show, hein. C'est-à-dire qu'on devait avoir Drew McIntyre. Non, c'était Bobby Lashley contre Sheamus, et au final, c'est Ridge Holland qui a catché à la place de Sheamus. Je sais pas si Sheamus, il a peut-être pas un petit problème de santé. Il est peut-être pas apte à catcher, en fait. Donc du coup,
bah il était comme à Money in the Bank, hein, donc.
Bah oui, c'est ça qui est
d'autant plus étrange. Peut-être qu'il économise effectivement. Et puis, je pense aussi que c'est important de faire catcher les jeunes, en fait.
Ouais, il y a ça aussi. Tu peux pas les faire venir sans rien leur faire faire pendant 2 mois. Hein, ça,
voilà, donc pour moi, c'est eux qu'ils apprennent en catchant, mais c'est mal raconté, quoi.
C'est mal raconté, ouais, c'est vraiment très très mal raconté. Encore une fois, hein, je le disais, mais ça ressemble au booking d'Impact à l'époque, quoi. Du grand n'importe quoi, bâclé. Du moment que ça passe, du moment que les gens à la télé ils voient des gens se taper dessus, c'est pas grave. Mais voilà, là on est en zéro pointé sur cette rivalité. Alors peut-être que je réfléchis comme ça, mais est-ce qu'on terminerait pas sur une triple frite? Roman Reigns ou McIntyre, Sheamus, finalement Sheamus il catchera à domicile aussi.
Ouais, ça serait bien, mais bon.
Ce serait une belle récompense pour lui. Hein, finalement, avec toutes ces manigances, d'arriver à se caler dans le. Au moins, on n'aurait pas souffert pour rien, quoi. On aurait une belle triple frite à Cardiff.
Ça serait bien.
Ça serait pas
ça
mal.
Ça serait bien. Ce sera pas ça, mal, mais ça serait bien.
Ce sera pas ça, mais effectivement, de toute façon, il y en a bien un qui va se blesser dans le tap, ils pourront pas le faire leur match. Bon, et ben zéro pointé hein, sur cette rivalité entre McIntyre et Sheamus. Et ensuite, on a le match donc Madcap Moss contre Theory. C'est-à-dire que la semaine dernière, Madcap Moss il avait louché un petit peu sur la manette de Theory. En mentionnant notamment que Theory avait une grande gueule et puis qu'il devrait pouvoir lui foutre sa mallette assez facilement au travers de la gorge. Il se fait débaucher un petit peu par ce bon vieux Paul Heyman, hein, qui était venu avant parler avec Theory en lui disant écoute, ça serait bien que tu sois de notre côté, etc., etc. Theory l'avait envoyé bouler. Madcap Moss fera de même. Hein. Ouais. Parce que hein, Paul Heyman a peur que Theory vienne cacher la manette sur Roman Reigns à SummerSlam. Donc voilà, donc après on a le match entre Madcap Moss et Theory qui est donc gagné par Madcap Moss, comme je vous l'avais expliqué plus tôt, via un coup de mallette de Theory qui va entraîner une disqualification. Un petit mot sur Madcap Moss là et Theory, comment que ça se passe? Ils tirent bien leur épingle du jeu, les deux-là. C'est quand même l'avenir, visiblement, de la WWE. Les titres, t'en penses quoi, toi, de ces deux gars-là?
Je pense que... Enfin, je suis contente que Madcap Moss revienne un petit peu, parce qu'après sa victoire contre Corbin, on ne l'a pas vu pendant quelques temps. Et ouais, j'avais un peu peur qu'ils se disent « Bon, ben voilà, c'est bien, tu as eu ton moment de projecteur. Voilà, rentre-toi. » Donc, je trouve que c'est déjà pas mal qu'ils reviennent. Et puis contre Théorie, c'est pas mal, puisque bon, Théorie, on voit bien que c'est la volonté, c'est de le mettre en avant absolument. Donc s'il peut avoir une petite rivalité ou quelques matchs contre lui, ça peut être pas mal. Et puis le match en lui-même était bien, je trouve. Madcap Moss a montré quand même pas mal de bons mouvements, tout ça. Non, c'était pas mal.
Ouais, ils se défendent l'un comme l'autre. Moi, j'ai pas mal d'espoir dans que ce soit
Dans
Théorie
ces deux-là, ouais.
Ou Madcap Moss. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Alors, le problème, c'est que les scénarios sont vraiment pas bons. Donc, on va voir
C'est
s'ils
ça.
arrivent à survivre à ces scénarios-là et s'ils arrivent à s'imposer comme des vrais superstars, de l'étoffe d'un Randy Orton ou de quelque chose comme ça. Papy, tu vois ça comment, toi? T'as un peu d'espoir pour tous ces gaillards ou...
Oui, bah, en plus, c'est annoncé hein, par les commentateurs qui disent que c'est en deux gros espoirs la WWE. Mm. Alors, théorie, d'autant plus, hein, parce que vu son parcours, il a vraiment tout pour, entre guillemets, tout pour lui pour avoir une grosse carrière.
Ouais, on sent que WWE, c'est son année, la théorie. Hein. Mm.
Donc, si, voilà, faut pas qu'il se plante, mais il y a des bonnes choses pour lui. Comment dire, et Madcap Moss, bah, surprenant, moi je pensais vraiment qu'il serait, disparaît après son histoire, sa rupture avec Corbin, et au final il continue d'être là, il continue d'être soutenu par la foule, donc c'est plutôt sympa pour lui, puis il fait, ouais, quand il est dans le ring, il est pas maladroit en fait, Madcap Moss finalement, donc tu vois, par rapport à un Ridge Holland qui finalement les deux sont arrivés à peu près en même temps, deux gros baraqués où tu te disais bah voilà, c'est le retour des gros bodybuildés qui savent pas catcher, et puis bah en fait Madcap Moss, mine de rien, on sent quand même que le temps passé au Performance Center, tout ça lui a pas, il a pris deux trois trucs, puis bah il reste intéressant, puis il a comme une certaine classe, j'ai envie de dire, quand il parle et tout, on sent qu'il la regarde, tout ça, avec Ridge Holland t'as toujours l'impression que c'est totalement vide derrière. Madcap Moss sent comme qu'il y a un poil plus de choses à l'intérieur de lui, donc bah tant mieux pour lui s'il s'en sort. Moi je pense vraiment que ça serait intéressant qu'il aille se bouffer Gunther,
ouais,
parce qu'en plus niveau physique ça serait très intéressant de voir ça, l'opposition, mais bon, c'est pas perdu, c'est peut-être prévu dans le futur.
Ouais, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais il y a effectivement Gunther qui est interviewé backstage avec son ami Ludwig Kaiser. Et il en veut toujours à Ludwig Kaiser pour la semaine dernière, parce que au milieu de l'interview, il commence à s'énerver, il l'insulte en allemand et il lui met des gros chops dans la poitrine, hein, il lui arrache même son t-shirt. Donc c'est pas fini le parcours de croix pour Ludwig Kaiser. Mais c'est tout ce qu'on aura de Gunther cette semaine. C'est pas très bien, je trouve, de se passer de Gunther.
Non, mais
il aurait sa place à venir un petit peu toutes les semaines. Tu fais pas catcher lui, tu fais catcher Kaiser.
Non, mais c'est ça le truc, c'est que le titre intercontinental, je pense que c'est devenu un titre toutes les deux semaines. Il laisse tellement de temps à d'autres saloperies que du coup, ce titre-là, à chaque fois, c'est pareil. On a un segment in-ring une semaine, hop, un truc backstage ou un package vidéo la semaine d'après, et ça tourne en boucle comme ça. Et généralement, la défense de titre se fait la veille du pay-per-view. Donc, je pense qu'on aura un Gunther Nakamura. La veille de SummerSlam, je l'annonce. C'est un spoiler.
Un spoiler. Ouais, au SmackDown de Go Home Show.
Exactement.
Ouais. Bah, Madcap Moss, comme tu dis, contre Gunther, l'adversaire idéal pour faire monter un peu Madcap Moss, qui coche quand même toutes les cases, moi, je trouve, pour être une grosse star WWE. En tout cas, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose avec lui, c'est vraiment qu'ils ont perdu la recette. Hein. Parce que là, leur dernier coup de maître, c'est Cody Rhodes. Mais bon, il s'est fait un petit peu tout seul, Cody Rhodes. Donc on n'est toujours pas convaincu ces dernières années par la machine à créer des stars. Hein. Ils arrivent doucement avec Riddle. Mais c'est pas encore totalement fait. L'autre espoir que j'ai, moi, c'est Fontes Ford quand même. Hein. Il est bâti comme une armoire à glace maintenant. Oui. Hein, donc,
en solo là. Là, ça tourne en
solo. Alors, je suis curieux du coup de voir à SummerSlam si on aura une victoire quand même du Street Profits, parce qu'ils essayent quand même de monter ça. Ou est-ce qu'on aura l'ultime défaite des Street Profits avec le split et le départ en solo de Montez Ford. Je ne m'inquiète pas pour Dawkins, qui peut être repackagé assez facilement, hein, autre part. Hein.
Oui.
Donc ce sera la suite. Et les Jimmy, les frères Ouzo qui tiennent la baraque, hein, toute la semaine. Hein. Ils sont là tous les jours, ils font des heures sup. Hein. Main Event d'un côté, Semi Main Event de l'autre. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas beaucoup de temps d'antenne. Hein. Mais bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de l'émission. On n'a pas eu de choses. Ah si, on a eu quand même l'annonce. La semaine prochaine, par le Maximum Male Model de Max Dupree.
Ah oui, quand même.
De la présentation la semaine prochaine de Maxine Dupree, la sœur de Max Dupree. Donc ça, on attend ça avec impatience quand même. Qui c'est ? Vous avez une idée de qui ça peut être ?
Moi, je pense que ça sera pas quelqu'un qu'on a déjà vu. puisque le nom est annoncé que c'est Maxime Dupri, c'est-à-dire que c'est un repackaging complet d'une superstar.
Ouais.
Et je vois mal une Tamina arriver en Maxime Dupri, tu vois.
Ouais.
Du mal à la dissocier un peu. Donc j'imagine que ce sera quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans le main roster, ou alors vraiment une fois dans un Royal Rumble à 40, un truc comme ça, quoi. Mais je, voilà. Moi j'imagine quelqu'un d'NXT, du coup.
Ouais. Letty, pareil.
Oui, pareil. J'ai pas d'idée, mais après, voilà, mais étant donné que c'est un nouveau nom, je pense que ce sera quelqu'un qu'on n'a jamais vu. J'espère que ce sera quelqu'un qui pourra, faire le job. Après, je me dis, en ce moment, ils sont. Mais des fois, je me fais des scénarios bizarres dans ma tête. Mais je me dis, ils sont tellement bizarres les bookers en ce moment. J'espère qu'ils vont pas nous sortir un truc à la Santina, quoi. Ouais, c'est tout de suite ce que j'ai pensé. En fait, je me suis dit, pitié, pas ça. On verra.
En fait, c'est un travelo, du prix.
J'y pensais aussi, mais j'ose pas y penser, quoi. L'histoire est trop bien racontée pour qu'il nous la tue comme ça, quoi.
Ouais, je sais pas.
Justement, j'espère que j'ai tort. Mais ils me font peur, les scénaristes, en ce moment. Donc, on sait jamais.
On a quatre possibilités. Soit c'est Max Dupri déguisé en femme. Soit on a quelqu'un d'NXT, soit c'est le repackaging de quelqu'un, mais alors ça va être compliqué. Ou alors la semaine de prochaine, il n'y aura rien. Ils auront oublié.
Possible aussi, ouais. Ça, c'est...
Aussi, oui.
c'est pas impossible. Parce que là, il y a beaucoup de promesses. Hein. Donc on est dans l'attente. On va être impatient pendant toute la semaine.
Défilé maillot de bain aussi, hein. Ils annoncent un défilé maillot de bain.
En plus, c'est le swimsuit spécial, quoi. Alors, j'ai hâte de voir Mansoir et
Mansoir.
MAC en maillot de bain.
Ça, on le verra en slip, c'est vrai que ça change d'habitude. Hein, mais bon.
C'est vrai que ça change d'habitude. Ouais. Mais je suis sûr qu'ils vont rendre ça beaucoup plus dérangeant que ce qu'on voit d'habitude.
Ça va te titiller.
Il y a des chances.
Ouais, ça va me titiller le juche et mes vis cachés, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà, c'est ce qui nous aura manqué ce soir, hein, le male model. Maximum male model. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois que j'ai rien oublié.
Ouais, parce que ça se termine sur les Ouzo.
Ça se termine sur les Ouzo qui, en grosse brawl, ça c'était pas mal, je trouve, sauf que ils ont oublié d'envoyer le service de sécurité, quoi. Donc, il n'y avait personne pour les séparer, hormis des arbitres qui ne savaient pas trop bien faire ça. Ça me manquait un petit peu. Mais sinon, c'était sympa de voir une grosse brawl comme ça entre les Ouzo et les Street Profits. Hein. Oui.
Non, mais bon, on va parler en mot de la fin des Ouzo et des Street Profits.
Ouais, oui. Allons-y d'ailleurs. Top flop note, vas-y, lâche les gaz.
Là, mais c'est voilà, mon flop. Donc du coup, les Ouzo et les Street Profits, alors c'est pas eux, mais c'est leur rivalité là qui en plus pour le coup se ferait tellement naturellement s'ils n'avaient pas décidé de foutre Jeff Jarrett en plein milieu et les comptages d'arbitre. Et je me trompe et si et ça et c'est totalement pourri. Moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont Enfin, franchement, enfin l'erreur d'arbitrage. Alors qu'on a déjà annoncé qu'il y a un arbitre spécial. J'ai trouvé ça tellement con que j'en pouvais plus, quoi. Ça traînait. Enfin, bref, c'était très mauvais. Donc, je le donne mon flop avec grand plaisir. Encore une belle affiche qui est totalement foirée par le booking là pour SummerSlam. Mon top, merde. Du coup, j'ai perdu mon top. Si, allez, je vais pour vous montrer que je suis quelqu'un d'honnête, je vais donner mon top à Liv Morgan pour son segment micro. Voilà, j'ai trouvé qu'il était moins nul que d'habitude. Donc je lui donne un top d'encouragement et ma note, j'ai trouvé ça pire que Raw en fait moi ce matin. Ouais. Et donc j'ai déjà donné un 2 à Raw. C'était moins pourri que la fois dernière où j'avais donné 0,5 mais qui était totalement foireux. Donc je vais donner un 1,25 pour tout ça, pour toutes ces histoires qui n'ont pas de sens là. Notamment celle avec les main eventers, quoi.
Ouais,
t'as,
ça, c'est chaud.
T'as Drew Sheamus et t'as Ouzo Street Profits et t'es capable de le foirer parce que tu racontes mal l'histoire. C'est vraiment dommage. Tiens, je retire 0,25, ça fait plus qu'un. Voilà.
Voilà.
Et arrêtez-moi si j'arrive à zéro.
Arrêtez-le. Letty, est-ce que tu es plus généreuse?
Un tout petit peu, mais pas beaucoup. En top, moi, je vais le donner à Paul Heyman. Parce que on l'a vu quand même à deux, trois reprises pendant tout le show. Il nous a fait un genre quand même de petit fil rouge d'aller voir Théori en essayant de lui dire non, mais voilà, on peut voir. Voilà, ne cache pas Summers-là, mais on s'arrangera. Après, il est parti voir Madcap Moss voilà, en lui disant si tu pouvais tabasser Théori, ce serait bien. Et en fait, c'est lui qui fait vivre la rivalité entre, entre Reigns et les Snars, puisqu'on ne les voit jamais, de toute façon, ou rarement. Et donc, pour ça, je vais lui donner mon top. Le flop, bah, il va aller à Kyla Braxton, qui arrive à nous foirer une histoire déjà foirée de base, en fait, au niveau de son annonce. Et en note, je vais donner... allez, j'avais donné 2,5 à Raw. 2. Parce que c'était quand même moins bien. 2.
2.
Je crois pas que c'est Kyla Braxton, hein. C'est l'autre monteur, non c'est, bah, c'est la... Je crois que c'est plutôt la copine de Ricochet. Voilà, ils ont...
La meuf à Ricochet, dont j'ai oublié le nom. Ouais.
Qui se ressemble, ça semble. Hein.
Ah oui, oui.
Voilà. C'est ça. Les mauvaises langues.
Bah, en tout cas, c'est à cette personne, du coup, que je donne.
Voilà, c'est cette personne qui recevra le... Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, mais...
Non, ça ne vient plus non plus.
Ouais, ok. Bah, tant pis pour elle. Bon, elle a peut-être lu le papier qu'on lui a donné aussi, on ne sait pas. Ouais, et ben écoute, moi, je vais donner mon top... Bon, il n'y a personne qui mérite un top là-dedans. Ah, Madcap Moss, tiens, allez.
Ah, je le sentais.
Il était bien, il était bien cette semaine. J'aime bien, moi, Madcap Moss. Voilà, Théori, Madcap Moss, ils ont fait le boulot cette semaine. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire.
Bravo, les jeunes.
Bravo. Ouais, je te rejoins, Lessie aussi, Paul Heyman, c'est lui qui tient les deux shows un petit peu, hein, depuis un moment. Mais bon. Ça ne va pas empêcher que le flop va aller... Bon, le flop, il va aller à la bande des Irlandais, là. Ils ont fait n'importe quoi. C'est zéro. Donc, voilà. Zéro, la tête à Toto. Il n'y en a pas un sur les 4 ou 5 ou 6 ou 10 personnes qui sont impliquées dans l'histoire pour se dire que ça n'a aucun sens ce qu'ils font. Donc, bah, ils ont bien mérité le flop, surtout que c'est quand même là-dessus que repose le pay-per-view qui suit SummerSlam avec le premier Premium Live Event en Europe depuis genre 30 ans. Là. C'est bien mal engagé tout ça. Bref, la note, moi je vais mettre, j'ai mis combien, un à l'autre. Je vais mettre un aussi ici. C'est pas beaucoup mieux. On est vraiment pas dans une bonne période là pour les weekly. On doit se farcir franchement des histoires qui ont aucun sens, qui sont bâclées. Il n'y avait pas beaucoup de catch hein, en fait, hormis un Liv Morgan, Natalia et.
Un peu plus que la semaine dernière quand même.
Un peu. Oui, alors, la semaine dernière il n'y avait rien du tout quoi. Donc c'était difficile de faire pire. On se rend compte que Sami Zayn est blessé aussi. Pareil, Sami Zayn. Bon, tant qu'il est blessé, on lui donne le micro, il peut faire plein de trucs. Bref, non, il n'y a rien d'enthousiasmant. Franchement, SummerSlam, ça se passe, ça s'engage sous de très mauvais auspices. On va espérer qu'ils sauvent les meubles. On est habitué quand même que la WWE nous sorte des gros pay-per-view malgré des roads bien pourris, mais celle-là, elle est quand même bien pérave. Hein. On va voir si la semaine prochaine on est sauvé par Max Dupree et ses amis. Voilà, bon, on a fait le tour de ce super catch-up. On n'a pas été trop long, hein, franchement, pas mal. On vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube, on est sur les réseaux sociaux @catchupcdc sur Twitter. On est sur Facebook ou on est sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner si ben, c'est pas encore déjà fait, hein, c'est toujours gratuit. Pour l'instant, vous cliquez sur la petite cloche, vous êtes averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. On est aussi sur Clapping TV, clapping.tv. Voilà, partout où vous pouvez nous retrouver. Des likes, des commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Letty, merci, grand merci d'être venu pour ce super SmackDown. Là, c'était beaucoup de boulot, mais tu as exécuté ça de main de maître.
Eh bien, merci Ringside de m'avoir accueilli. Merci Papy. Ça fait toujours plaisir de faire des reviews avec vous.
Et Papy également, un grand merci.
Bah, et merci à toi Ringside. Merci beaucoup à Letty de ne pas nous avoir laissé juste toi et moi à enchaîner ces shows médiocres. Parce que là, ça fait comme trois shows pourris qu'on se tape. C'est vraiment très dur. Donc, merci beaucoup, Letty, de venir nous rejoindre dans notre galère.
On est usé.
De rien.
Usé, fatigué, mais on sera là, fidèle au poste pour les prochains
épisodes. Je vous soutiens.
Merci pour ce soutien. Merci à vous, nos auditeurs. Je vais juste glisser rapidement qu'il y a le G1 Climax de la New Japan Pro Wrestling qui commence là depuis samedi.
Ah.
Les deux premières journées sont gratuites sur le New Japan World. Donc voilà, allez jeter un œil. Si ça vous va, c'est un peu spécial cette année. Il y a 4 blocs.
ABCD. Ah, j'ai demandé. Il y avait déjà les blocs et tout.
Voilà. 4 blocs cette fois-ci. Donc il y a 4 matchs. Un match par bloc à chaque soirée. Donc ça va, c'est assez digeste quoi. 4 matchs, c'est pas.
Et du coup, il y a moins de gens par bloc ou ils ont mis juste 2 fois plus de personnes?
Il y a moins de gens par bloc. Mais je crois qu'il y a quand même plus de participants que d'habitude. Mais. Je mise encore mes billes comme chaque année sur Okada. Que l'histoire, c'est que Okada est dans le bloc où il y a que des monstres. Du genre Jeff Cobb ou le Murder Hawk, Lance Archer, des choses comme ça. Donc voilà,
il y a quelques têtes d'affiche du catch américain qu'on pourrait connaître pour nous qui regardons principalement la WWE.
Qui c'est qu'on a de chez nous? Enfin, il y a alors la WWE, il y a pas grand.
Ah, des Dex.
Dex, WWE, je, comme ça, de tête, je réfléchis. Je vois pas. Il y a Lance Archer de la All Elite Wrestling. Sinon, ouais, non, il y a pas trop de têtes connues, de nos contrées. Voilà. Ce que je veux dire, j'ai déjà regardé la première journée. Il y a un très bon match entre Will Ospreay et El Fantasmo. Voilà, elle vaut le coup d'œil la première journée. Voilà, n'hésitez pas. En ce moment, la WWE c'est un peu moyen, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à tester le G1 Climax. C'est toujours sympa. Et il y a aussi disponible sur le WWE Network le match, l'Iron Man match entre Tristan Archer et l'ancien Alexander Wolf, Axel Tischer.
Wolfman.
Axel Tischer, je crois maintenant, qui faisait partie de Sanity, hein, souvenez-vous, et aussi d'Imperium. Voilà, Iron Man match d'une heure entre le Français Tristan Archer, notre champion de la VXV, la fédération allemande, hein, la première fédération d'Europe. Hein. Donc voilà, joli match d'une heure entre les deux, je vous conseille. C'est dispo donc sur le WWE Network. Pour le reste, voilà, bah, on espère que ça vous a plu de nous écouter autant que nous d'enregistrer. Et puis bah, on se retrouve dès bientôt hein, pour débriefer un peu plus d'émissions de la WWE. Ciao les amis, à bientôt, bye bye.
Salut à tous.
Salut tout le monde.
Marrant, toi, des anciens WWE.
Ah ouais, attends, j'ai vraiment posé une question con, hein.